Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Enum, l'émission numéro 52. Quel plaisir, chers auditeurs, de vous retrouver pour ce 52e épisode du podcast de la rédaction des Numériques, mais seulement le deuxième pour moi dans ce fauteuil de présentateur, puisqu'aujourd'hui c'est bien moi, Florian, qui serai votre hôte en substitut de Mathieu, qui coule en ce moment quelques jours de repos bien mérités. Et c'est donc sans lui que nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui, ne nous le cachons pas, revient assez souvent dans cette émission, à savoir Apple. En même temps, force est d'admettre que l'entreprise de Tim Cook a une mainmise assez forte, et ce depuis bien longtemps, sur le rythme de l'actu tech. Et en l'occurrence, le dernier événement qu'elle a orchestré, ça a été le lancement, quasi simultané, d'un nouvel iPad Pro et d'un nouvel iMac, tous deux équipés de la puce Apple M1. Alors on rappelle bien sûr que cette puce M1, c'est celle qui avait été lancée en novembre dernier avec les nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini, et qui lançait la transition de la gamme Mac depuis des processeurs Intel vers des processeurs à architecture ARM conçus en interne par Apple. Et donc ce lancement, il nous donne l'occasion aujourd'hui de faire en quelque sorte le bilan d'étape de cette transition 6 mois après, et de réévoquer aussi la question de la convergence iOS-macOS, un sujet dont on entend parler depuis maintenant des années, parfois à tort et à travers, mais qui revêt désormais une couleur toute nouvelle, maintenant qu'on vit dans un monde où il y a des Mac et des iPad qui utilisent le même processeur. Alors bien sûr, je ne vais pas faire ça tout seul, au contraire même, aujourd'hui c'est la foule des grands jours dans ce podcast, puisque je suis accompagné par 3 de mes chers collègues, à commencer par Kevin. Bonjour Kevin.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Alors toi Kevin, tu représentes bien sûr notre rubrique téléphonie mobilité en tant que spécialiste S-iPad, puisque c'est toi qui t'es chargé ces derniers jours du test de ce fameux nouvel iPad Pro. Avec nous également aujourd'hui Guillaume. Salut Guillaume.
Bonjour, salut à tous.
Alors toi, tu nous viens de la rubrique informatique et c'est donc l'iMac que tu as pu récemment décortiquer et dont tu vas pouvoir nous parler aujourd'hui. Et enfin, Tanguy. Salut Tanguy.
Salut Florian, salut tout le monde.
Alors toi, tu es notre chef de service TV Images, mais tu es aussi un utilisateur et un très fin connaisseur de l'écosystème Apple, et je ne doute pas une seule seconde que tu auras plein de choses passionnantes à nous dire sur le sujet, dans lequel d'ailleurs on va se plonger sans plus attendre. Et alors pour commencer la discussion, je vais d'abord me tourner vers toi Kevin. Donc comme je viens de le dire, toi tu as testé l'iPad Pro et pour l'Enum, t'en as déjà parlé à l'écrit, en vidéo, en live en compagnie de notre cher camarade Lam. Bref, très bientôt tu vas plus pouvoir le voir en peinture, cet iPad Pro de ses morts. Mais je voudrais quand même te demander, je voudrais avoir l'outrecuidance, le culot de te demander si tu le veux bien de nous résumer rapidement, très rapidement, les enseignements de ton test. Promis, c'est la dernière fois.
Bah, t'as bien de la chance et c'est bien parce que c'est toi. Que dire de plus que c'est tout simplement le meilleur iPad jamais sorti. Et en même temps, c'est pas difficile puisque dedans, on a une puce du coup Apple M1, donc qui est la puce la meilleure du marché. Et on a également un écran mini LED, donc une nouvelle technologie LCD. Tanguy me contredira si je dis des bêtises, mais... Du coup, on a un des meilleurs écrans qu'on pouvait avoir sur un iPad. C'est également la première fois que Apple ne propose pas entièrement du LCD sur une de ses tablettes.
Pas du LCD classique en tout cas.
Oui, du LCD classique, ouais, ça, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Mais sinon, elle n'a pas grand-chose à voir avec la concurrence, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce qui a été proposé avant, hormis sur le design. C'est presque un MacBook Air, presque un MacBook Pro, mais ça reste tout de même une tablette. Et quelle tablette, j'ai envie de dire.
Voilà, et donc effectivement, c'est presque un MacBook Air, presque un MacBook Air, presque un MacBook Pro, ça va évidemment être un peu autour de ça que la discussion va tourner aujourd'hui. Et donc toi, de ton côté, Guillaume, c'est le nouvel iMac dont tu as été chargé. Alors pour le coup, toi, t'en es peut-être pas encore au même stade d'indigestion que Kevin, parce que ton test n'est pas encore sorti sur les NUM. Mais du coup, est-ce que en avant-première, tu pourrais nous donner déjà quelques petites indiscrétions à son sujet ?
Bah, en fait, c'est un produit, il faut le dire, hein, qui est top, quoi. On l'a eu à la rédaction. Comme disait Kevin et ou d'autres camarades, ils le surnomment la tablette sur pied. Donc, c'est pour te dire à peu près le niveau. C'est un produit qui est magnifique, hein, tout simplement. Puis son processeur est super performant aussi sur grand écran, quoi.
D'accord. Parce que donc oui, ces deux produits, c'est continuation donc de la révolution qui avait démarré l'an dernier. Et ce nouvel iMac, en fait, si on fait exception du Mac Mini, qui a toujours été un petit peu à part, on va dire, dans la gamme Apple, du coup, c'est le deuxième Mac desktop équipé d'un processeur M1. Et pour toi, concrètement, qu'est-ce que ça lui apporte, le fait de passer sous puce M1 ? Est-ce que pour l'utilisateur, en fait, il y a des bénéfices clairs ? Ou est-ce que finalement, tout ça, c'est juste un changement transparent dans l'arrière-boutique qui fait pas de différence au quotidien ?
Bah, moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt transparent. Je viens du monde du PC, donc là on passe sur PC, tout est en x86, là on passe sur du ARM, mais l'écosystème Apple est tellement bien fait, on va dire, qu'au final l'utilisateur lambda ne sait pas si il s'en moque, en gros, et il peut s'en moquer parce qu'il n'y a pas de différence à l'usage.
Mais du coup, la question après, c'est de quel usage on parle, parce que, donc tu l'as dit, le nerf de la guerre, effectivement, c'est ce passage d'une architecture ARM, enfin d'une architecture x86 à une architecture ARM. Alors on sait que l'intérêt de l'ARM pour des appareils mobiles, il est évident, l'efficacité énergétique. Mais a priori, on peut se dire que l'efficacité énergétique, c'est quelque chose qui, pour du desktop, n'a pas autant d'importance. Et effectivement, cette puce, on savait déjà de...
Alors oui, vas-y, continue. Effectivement, c'est une puce qui consomme rien. On a testé, par exemple, la consommation. En pleine charge sur un travail d'encodage vidéo, on est à 50 watts, alors que l'ancien modèle faisait 200 watts, par exemple. Alors, comme ça paraît complètement dingue, mais il est plus performant, quoi. Donc, c'est vraiment... Ça montre la supériorité qu'ils ont acquis avec cette puce, quoi. C'est simplement dingue.
En vrai, avec Apple, ouais, on est toujours un peu déçus parce qu'en fait, les M1, il est sorti en novembre dernier ou en octobre dernier avec les MacBook Air, MacBook Pro. Là, on a un iMac qui sort au mois de mai avec la même puce. Et comme tu dis, c'est sur un desktop. C'est une puce mobile qui est sur un desktop. En fait, on s'attendait tous à avoir un genre de M1X avec une puce graphique un peu remis au niveau. Et en fait, bon, on n'est pas déçus parce que c'est quand même une puce qui reste très performante. Mais c'est clair qu'on est sur un processeur de mobile dans un iMac, dans un desktop. Donc alors, on gagne en épaisseur. Il est hyper fin, il est hyper beau, mais c'est clair qu'en termes de puissance, on reste sur la même puissance qu'un MacBook Air ou qu'un MacBook Pro.
D'accord, mais du coup, même si on compare du coup à du desktop, du coup, voilà, on a parlé des usages. Concrètement, aujourd'hui, un iMac, pour toi, Guillaume, ou pour toi aussi, Tanguy, ça se destine à quel usage ? Parce qu'on parle tout à l'heure vous parliez d'une tablette sur pied. Est-ce que ça veut dire qu'on est toujours un petit peu dans cette caricature qu'on pouvait faire de l'iMac, qui est une machine à traitement de texte et à naviguer sur le web ? Ou est-ce que du coup, on peut vraiment aujourd'hui faire des choses beaucoup plus avancées que ça ?
Pour moi, l'iMac, c'est la machine polyvalente par excellence. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire de la bureautique, du multimédia. C'est toujours le cas, c'est encore plus le cas avec ce modèle-là, qui est vraiment polyvalent. Tu vas pouvoir faire de la photo, du montage vidéo. L'avantage de la puce M1, c'est qu'elle est très puissante en traitement vidéo. Tu peux faire du montage 4K. Il y avait Guillaume qui avait testé le montage 8K sur un MacBook Air. Et évidemment, c'est toujours le cas sur cet iMac, puisque c'est la même puce. Donc, tu vas pouvoir aussi monter du 8K sans non plus pousser sur les effets, mais du montage classique de la découpe, ça va passer tranquillement. Donc, c'est quand même impressionnant sur une machine comme ça. Après, on reste sur un moniteur de 24 pouces. Et c'est là où ça va pouvoir bloquer pour les pros, parce que ça reste quand même un espace assez réduit en termes d'espace de travail. Pour le reste, franchement, c'est ultra polyvalent. Je ne sais pas ce qu'on ne peut pas faire, en fait, à part le jeu vidéo. Mais encore, le jeu vidéo sur Mac, clairement, c'est limité, quoi. On va retrouver les apps de Apple Arcade, mais ce n'est pas non plus une machine de jeu. Après, il s'en sort mieux que les anciens Mac. Donc, on peut tout faire, on va dire.
Donc, c'est-à-dire que concrètement, en fait, au niveau du jeu, le problème reste logiciel, bah, c'est ça que tu es en train de dire, mais par contre, niveau hardware...
C'est le catalogue sur Mac qu'on n'a pas, on n'a pas le catalogue de jeux PC. On a Steam sur Mac, mais on se retrouve avec Rise of Tomb Raider, quoi. Donc, qui est une version... Enfin, voilà, c'est le seul jeu récent, on va dire, qu'il y a sur Mac. On a Hearthstone, moi, je joue à Hearthstone, qui est un jeu mobile. Il n'y a pas vraiment les grosses productions, on ne les trouve pas sur Mac, quoi.
Mais du coup, est-ce qu'on est capable de chiffrer cette puissance? Je veux dire, concrètement, aujourd'hui, ce M1, si on compare à des puces qui peuvent être disponibles en x86, aussi bien chez Intel que chez AMD, est-ce qu'il y a des équivalents à ce que ça fait aujourd'hui?
Alors, sur les derniers tests qu'on a fait, on va avoir, ça sera des puces basse conso, parce que le M1 consomme rien. Mais si on regarde sur les puces basse conso, chez AMD, on aura du Ryzen 7, typiquement un 5800U, c'est un processeur 8 cœurs, 16 threads. Et du coup, ça correspond au niveau des performances. Si on compare dans les benchmarks, on arrive à faire la même chose, quoi. La puce M1, elle fait combien? Elle fait 10 watts, je crois, Tanguy?
Même 15 watts, 17 watts.
Même 15 watts, ouais. Ouais. C'est pareil, du coup, pour un 5800U, on est à 15 watts chez AMD, par exemple. Mais en x86.
Et en termes de puissance graphique? Du coup, on va être derrière.
En termes de puissance graphique, j'ai pas testé Rise of Tomb Raider. Faudrait que c'est un test intéressant qu'on pourrait faire, effectivement. Mais on ne sera pas aussi bon, à mon avis. Hein.
Donc, du coup, voilà, il y a quand même toujours des toutes petites, on va dire, des tout petits compromis qui doivent être faits par rapport à ça.
Mais le gros avantage d'Apple, c'est qu'ils contrôlent tout l'écosystème. C'est-à-dire qu'ils peuvent adapter les logiciels, etc. Et du coup, ils ont des instructions spécifiques, tout est fait pour que tout fonctionne de manière fluide, alors qu'un processeur x86, c'est pas prévu pour ça. Il est juste prévu pour faire continuer de faire fonctionner les anciens logiciels que Windows a depuis des années et des années. Et ce qui est pas le cas d'Apple, quoi. Ils ont pas besoin de se soucier de ça. Ils balancent tout en arme et puis voilà, quoi.
Et c'est surtout des instructions. La force d'Apple, c'est de forcer la main des développeurs et de faire le tri dans les instructions. C'est-à-dire toutes les anciennes instructions sont enlevées. Et ils forcent les développeurs à mettre à jour leur application pour en fait les compiler pour les nouveaux processeurs. Et en gros, ils peuvent faire table rase du passé, on va dire. C'est le gros avantage d'Apple.
Ils n'ont pas d'héritage à assurer, quoi. Voilà, c'est ça.
Là-dessus, on peut justement revenir au sujet de départ, qui est un peu ce rapprochement qui s'opère ou non entre macOS et iOS. Justement, ce fait que Apple puisse et se retrouve en position, entre guillemets, de devoir forcer la main des développeurs, ça peut aussi être vu comme un problème, parce que sur PC, on attend une interopérabilité des logiciels qui est tout autre que sur une plateforme mobile. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là, justement? Est-ce qu'il n'y a pas toujours...
Là où Guillaume disait qu'il n'y a aucune différence pour l'utilisateur, il y en a une seule. Les machines M1, en fait, mais c'est le cas, en fait, c'est la transition d'Apple qui se fait comme ça. En fait, elles ne supportent pas les applications... En fait, elles émulent toutes les applications x86, mais elles ne peuvent pas émuler les applications 32 bits. Et c'est le cas. Apple a introduit ça il y a 2 ans avec Catalina. En fait, ils mettent à jour leur système. Et depuis Catalina, les applications 32 bits ne sont plus prises en charge. Donc, les gens qui ont mis à jour leur machine au fil du temps l'ont vu et sont passés à autre chose ou ont demandé aux développeurs de mettre à jour leur app. Mais en revanche, les gens qui utilisent encore, qui sont sous les systèmes qui étaient sortis avant Catalina et qui utilisent encore des applications 32 bits, le jour où ils passent au Mac M1, ils ne peuvent plus utiliser leur application 32 bits, en fait. Donc, c'est transparent, oui et non. Il faut quand même... faut pas utiliser l'application 32 bits. Il n'y a que les applications 64 bits qui vont fonctionner sur les Mac M1. Et on ne peut pas revenir en arrière, surtout. Puisqu'on ne peut pas installer de système antérieur à celui de la machine.
Évidemment. Mais du coup, ce que tu disais, Guillaume, c'est que les développeurs, globalement, ont l'air de jouer le jeu, alors contraint ou non. Mais globalement, on voit quand même déjà aujourd'hui beaucoup d'applications qui ont été portées nativement sur l'architecture ARM.
Tu vas avoir tout ce qui est... faudra que Tanguy confirme avec moi, mais je pense que tu as du Photoshop, tu as toutes les suites Adobe qui ont été déjà portées nativement sur M1. Et au pire des cas... t'as quand même, on va dire, un émulateur qui s'appelle Rosetta qui te permet de faire fonctionner les anciennes applications dans un premier temps.
Il y a quasiment tout qui tourne, en fait. Il y a on va dire que le moteur est enclenché pour le portage vers la nouvelle architecture ARM. Et en plus, on sait que les machines Intel sont vouées à disparaître chez Apple d'ici 4 ans. Donc forcément, les développeurs, ils vont être obligés d'y passer. De toute façon, quand on compile son application pour un Mac, on est obligé de passer par le logiciel Apple. Et de toute façon, si on pousse une nouvelle mise à jour, elle est forcément compilée pour les deux systèmes, elle sera forcément universelle. Donc, de toute façon, pour ce type d'application, les développeurs n'ont pas le choix, on va dire. Enfin, en tout cas, s'ils veulent passer par la moulinette Apple, après, il reste toujours la possibilité de développer des applications dans son coin. Effectivement.
Très bien. Donc de ce point de vue-là, en fait, j'ai envie de dire, on voit très clairement une confirmation de la tendance qu'on avait déjà vue venir, en fait, avec les premiers tests qu'on avait faits de machines sous M1 avec les MacBooks de novembre dernier.
Exactement. On est exactement dans la lignée des M1. Il n'y a pas vraiment de surprise, en fait, avec cet iMac. C'est un Mac mini avec un écran, clairement. Les différences, d'ailleurs, sont très, très maigres. On a une connectique qui est quasiment identique. On a 1000 euros d'écart, en gros, entre les deux pour un écran 24 pouces 4,5K, une souris, un clavier, quoi. Est-ce que ça les vaut ou pas? À vous de voir. Après, on paye l'intégration Apple. Il n'y a qu'un seul câble. Ils ont mis le port Ethernet sur l'alimentation.
Ça, c'est impressionnant.
Voilà, quoi. On paye aussi, c'est ça qu'on paye. Et franchement, c'est une super machine familiale. Moi, je prends mon cas, j'ai un iMac dans le salon. Et pour moi, le truc le plus marquant de ce modèle-là, c'est Touch ID, qui va permettre de passer d'une session à l'autre juste en posant le doigt, en appuyant sur le bouton, et ça change de session, et ça évite de se déconnecter, passer par la page d'accueil, rentrer son mot de passe. Et ça, c'est vraiment c'est un des trucs les mieux. Sachant que le clavier Touch ID sera disponible plus tard en pièces détachées, mais qui ne fonctionnera qu'avec les Mac M1.
Et qui va
de
coûter,
toute façon,
j'ose même pas imaginer
150
combien.
Euros, voilà. À peu près 150 euros. Voilà. Et qui ne marchera pas avec mon iMac que j'ai actuellement. Donc de toute façon, il faut tout changer. Merci Apple.
Donc tu dis que là, ça fonctionne avec un Mac mini acheté
M1,
précédemment,
ouais.
Alors.
M1, un Mac mini M1, ça marchera avec un Mac mini M1, apparemment, le clavier Touch ID. D'accord. Mais ça ne marchera pas.
Ça doit être une histoire de sécurisation des données dans la puce ou quelque chose comme ça, non?
Après, Donc, bon, okay. Mac M1, Touch ID, ça marche aussi. Après, il faut trouver l'écran design. Et pour avoir cherché un moniteur design qui s'intègre bien dans un salon, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et en plus, il faut intégrer les câbles. Donc, les câbles qui passent derrière, c'est assez moche. Enfin bon, quand on aime bien un truc propre, j'avoue que l'iMac, il n'est quand même pas si dur de faire mieux.
C'est impressionnant. On a fait les photos. J'ai fait les photos là pour le test. Il y a le câble qui se voit, mais ce n'est pas grave. Il n'y en a qu'un. Au niveau de l'intégration, c'est génial.
Il y a un autre truc dont on n'a pas parlé et qui m'a quand même pas mal impressionné, c'est le système audio, qui est quand même impressionnant pour la taille du truc. Et quand il y a eu le démontage d'iFixit, qui a entièrement démontré le truc, il y a deux espèces d'énormes plaques en alu en fait, derrière l'écran,
ouais,
qui
sont
en fait c'est des chambres de résonance pour les enceintes. Enfin, ils ont fait un travail, franchement, sur ce point-là, c'est vraiment pas mal.
D'ailleurs, okay, Florian, on attend que tu jettes tes oreilles sur ce produit.
Mais ce sera fait très prochainement, t'inquiète pas. Je pense qu'à l'heure où le podcast sera publié, ce sera même déjà fait, en fait. Donc,
super.
Voilà. Mais du coup, je vais revenir vers toi, Kevin. Voilà, on va réinsister un petit peu sur ce nouvel iPad Pro, parce que évidemment, le passage à la puce M1, c'est un petit événement. Alors, j'allais dire, moi qui ai suivi le truc d'un petit peu loin, inattendu, mais est-ce que c'est vraiment le cas, en fait? Toi qui fréquentes un peu les milieux autorisés, comme on les appelle, qu'est-ce qui se disait avant? Qu'est-ce qui se dessinait? Est-ce qu'on avait envisagé cette puce M1, quand elle a été présentée, qu'elle puisse être utilisée non seulement dans des Mac, mais aussi dans des appareils mobiles?
Ben non, pas du tout, parce que en fait, ça nous a été présenté comme une puce d'ordinateur, une puce de Mac. Donc, à aucun moment, on s'est dit, OK, on peut tabler sur une apparition sur un iPad Pro, en l'occurrence, en plus. Les premières rumeurs qui parlaient de l'iPad Pro parlaient d'une puce A14Z, donc qui est la nomenclature pour les processeurs d'iPad Pro, en fait. Le petit Z ou le petit X, ça dépend des années.
Qui aurait signifié en gros que c'était une puce A14, mais surgonflée, on va dire, voilà, avec un peu plus de cœur, des fréquences plus hautes, ce genre de choses.
Ce qui aurait été complètement incroyable déjà, parce que le A14, en fait, ça reste une excellente puce. On l'a vu sur l'iPad Air 4, c'est assez incroyable. Donc, on s'est dit, OK, on va avoir un A14Z, ça va être très bien, ça va tourner comme il faut et tout. Et en fait, quand les premières rumeurs de l'iPad Pro M1 sont arrivées, on s'est dit, bon, OK, c'est plus ou moins concret. Et puis, quand ça a été annoncé, explosion, mindfuck, tout ce que tu veux. On s'est dit, OK, pour une entreprise qui essaye de briser la limite entre l'ordinateur portable et la tablette, pour le coup, là, on y est toujours un peu plus, puisque maintenant, on a la même puce que tu peux avoir dans un MacBook ou même maintenant dans un iMac, ce qui est assez impressionnant.
Ce que tu dis, c'est très intéressant, parce que j'avais justement moi-même noté dans mes notes que tout ça arrive, alors que ça fait maintenant longtemps, ça fait bien des années que Apple vend ses iPads comme des potentiel remplacement de PC, à tel point qu'en 2020, vraiment le slogan principal des iPad Pro, donc de l'époque, c'était « Votre prochain ordinateur n'est pas un ordinateur ». Et à côté de ça, il y a eu des accessoires comme le Magic Keyboard qui vraiment, il va à fond dans le côté « je transforme mon iPad en un ordinateur portable » en fait. De quoi réveiller un très vieux fantasme dont on entend parler depuis, je n'ose me rappeler combien de temps, macOS sur iPad.
Sur iPad, waouh.
Pour toi, concrètement, où est-ce qu'on en est là? Est-ce que ça te paraît possible aujourd'hui?
Non, et pour une raison simple, Apple l'a confirmé déjà.
que ça oui, mais tu sais, après, entre ce que Apple dit et ce qu'Apple fait, des fois, il y a un petit monde, tu vois.
En vrai, je vois mal macOS arriver sur un iPad, dans le sens où Apple a une volonté, je pense vraiment, de faire de l'iPad son propre écosystème, enfin son propre produit, différenciant de ce qu'on peut avoir avec un iPhone ou un ordinateur. Auparavant, jusqu'à 2019, sur iPad, c'était iOS qui prédominait. Et avec iOS 13, ils ont annoncé iPadOS, donc un petit revirement. Et du coup, on a vraiment un OS dédié pour les tablettes maintenant, qui n'est plus seulement une version agrandie d'iOS, mais qui bénéficie de ses propres features, même si elles sont quand même proches de ce qu'on peut trouver sur un iPhone, et elles sont, pour le coup, très éloignées de ce qu'on peut trouver sur un Mac, par exemple. Le seul truc en commun qu'il pourrait avoir, c'est la gestion des fichiers, mais elle est encore assez catastrophique sur un iPad, par rapport à ce qu'on peut avoir sur un Finder, par exemple.
Mais justement, il y a un côté paradoxal là-dedans, parce que tu dis que tout semble indiquer qu'Apple veuille maintenir vraiment voilà, cette distance entre les Mac et l'iPad, et pourtant, la direction dans laquelle ils évoluent, aussi bien en séparant iPadOS d'iOS que en mettant une puce M1 dans un iPad, pour moi, c'est plutôt justement de séparer l'iPhone de l'iPad.
Je suis d'accord avec Florian, avec cette analyse très précise.
Merci Tanguy.
On a vraiment l'impression qu'ils veulent fusionner les deux, mais c'est vrai que... Parce qu'une puce M1, on rappelle quand même que le M1, on pensait que c'était pour Macintosh 1, qu'ils mettent le M1 dans un iPad, c'est quand même particulier. Quoi.
Moi, je pense surtout qu'ils veulent en fait construire une nouvelle machine portable et en s'appuyant justement sur la force de la tablette, qui est, par exemple, je sais pas, le stylet. J'aurais pu dire la portabilité, mais en soi, quand tu mets un iPad et un Magic Keyboard, tu arrives au point d'un MacBook Pro, donc à ce niveau-là, c'est plus trop le cas. Mais pourquoi pas sur un modèle Air, par exemple, tu vois, un iPad Air 5 qui arriverait sur un M1, ça pourrait être...
La différence fondamentale entre le Mac et l'iPad, de toute façon, restera jusqu'à la fin des temps le tactile. On sait que voilà, Apple,
c'est pas prévu, ouais.
Globalement, tout ce qui est écran tactile sur un ordinateur, pour eux, ce serait un blasphème. Donc voilà, ça restera la différence
pas tort,
fondamentale.
Je trouve, mais...
Alors moi, je confirme aussi. Blasphème.
D'accord, vous êtes globalement tous d'accord pour dire que les écrans tactiles sur des laptops, ça n'a aucun intérêt. Ah
ouais, un truc à la Surface Studio, moi, je serais chaud, en vrai.
Ouais, mais c'est franchement, ça touche une niche, quoi. Oui. Qui veut coucher son iMac pour dessiner dessus, quoi, en vrai? Mais
y a, personne, c'est y a pour personne ça qu'ils achètent un iPad Pro.
Ouais, non, mais après, ouais. Non, mais la fusion des deux, après, on peut se dire qu'Apple un jour proposera le choix au boot d'installer iPadOS ou macOS. Hein. La frontière est hyper fine et c'est la même plateforme logicielle. Rajouter une couche tactile à macOS, en vrai, ça existe déjà. Il y a déjà des écrans tactiles pour les pros pour macOS, ça existe. Donc, il n'y a plus de limite, en fait.
Il y a des trucs qui pourraient être intéressants. C'est dans le même genre que l'application fichier qui reprend plus ou moins ce que peut faire le Finder, même si c'est pas incroyable, ça serait peut-être l'intégration du multicompte, tu vois, par exemple, ce qui est présent que
il y
sur
en a beaucoup
un, sur un macOS.
Ça,
oui. Et ce qui aurait sens, ce qui ferait sens sur un iPad, puisque juste en détectant un autre visage, en fait, il pourrait se connecter directement au compte.
Sachant
de la même
que
manière
je crois que c'est déjà disponible pour l'éducation, je crois, non? De mémoire.
Je sais pas du tout. Je sais pas
sur les
marche,
tablettes là. Éducation, je crois qu'on peut s'identifier à plusieurs. Enfin, il y a plusieurs sessions, je crois.
Mais globalement, enfin, moi, je crois me rappeler que globalement, ce qui avait été dit, enfin, ce qui est un peu dit dans toutes les reviews d'iPad à chaque fois, pas seulement les nôtres, mais aussi celles de tous nos confrères en français à l'international, c'est qu'il y a deux choses qui l'empêchent justement de vraiment prendre la place d'un ordinateur. D'abord, comme vous venez de le dire, c'est le multicompte. Et le deuxième point, c'est le multitâche aussi, qui reste quand même clairement aujourd'hui nettement moins évolué sur, et moins pratique à utiliser sur iPadOS que sur macOS.
Et il y a aussi la gestion des fichiers, qui est quand même beaucoup moins simple, franchement.
Qui me rend fou. En vrai, je pense que l'idée est bonne, mais en fait, déjà, tu ne peux même pas gérer les fichiers DMG de ton Mac, tu ne peux pas les gérer sur ton iPad avec l'application fichier déjà. Donc rien que ça, déjà, c'est un frein. Tu peux ne pas retrouver ce que tu viens de télécharger aussi, ça arrive. Ça ne va pas forcément dans le dossier download, ça peut aller un peu où ça veut. Enfin, c'est fou, un enfer. Et en plus, tu t'actives la synchronisation via iCloud, ça te fuck tout ton dossier. C'est un peu l'enfer, j'avoue que...
Et puis on peut rajouter aussi le fait que sur iPad, tu es limité aux applications de l'App Store. Là où sur un Mac, tu fais ce que tu veux. Tu peux aller prendre des codes open source, du VLC, où tu veux. Quoi.
Et on en revient du coup à l'histoire de le fait qu'Apple force la main ou pas aux développeurs. Voilà, c'est quand même au bout d'un moment aussi.
C'est censé
en tout cas être une différence fondamentale entre les deux plateformes.
Pour info, je me suis renseigné, c'était possible d'installer Linux sur un Mac M1, c'est possible, mais sur un iPad, pour l'instant, c'est pas encore possible. Donc sur les Mac M1, on peut installer Linux à la place.
Vivement le jailbreak, c'est ça que tu es en train de dire
on ne sait plus, là. donc l'iPad, moi pour avoir aperçu l'iPad Pro là, 13 pouces, c'est quand même très... Enfin, à côté d'un MacBook Pro 13, franchement, je le trouve plus encombrant avec le folio à 400€ là, qui lève la tablette. Franchement, le truc, il est monstrueux.
Ah, mais il est plus
abîmé. Il vaut plus cher. Enfin, franchement, je ne sais pas. À part pour ceux qui ont vraiment intérêt du stylet, qui ont l'intérêt du stylet, et l'écran micro LED qui est quand même exceptionnel.
Oui, voilà. J'allais revenir là-dessus, justement, parce qu'un des éléments qui mérite vraiment d'être noté, tu en avais déjà parlé, du coup, Kevin, en intro, c'est, alors sûrement sur le modèle 12,9 pouces, on rappelle, ce fameux écran mini LED, qui, pour le coup, est même un point sur lequel l'iPad Pro est, à l'heure qu'il est, en avance sur le Mac. Alors, peut-être pas pour longtemps, pas vrai Guillaume? Je crois qu'il y a eu des petites rumeurs à ce sujet ces derniers temps.
Mini LED sur le Mac, c'est prévu sur un MacBook Pro normalement. Si ça se trouve, ils seront annoncés la semaine prochaine, c'est ça? Le 7 juin, donc...
Et voilà, c'est ça, il y a la conférence de la WWDC, donc la Worldwide Developer Conference d'Apple, qui démarre le 7 juin, et il y aura cette fameuse conférence d'ouverture où normalement on ne parle que de software. Mais
ça fuite de partout,
que
surprise.
Peut-être, voilà, il y aurait ces fameux MacBook Pro équipés d'un écran mini LED. Mais du coup, en attendant, si on veut un équivalent à ça dans le monde du Mac, la seule option qu'on a, c'est le fameux écran moniteur Pro Display XDR coûte la bagatelle de 5 500€ et même 6 600 si on rajoute le pied à 1 100€. Je pense que c'est de ça que tu allais parler, Tanguy, bien sûr.
Calme.
Mais du coup, la raison d'être de cet écran sur l'iPad, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'on pourrait se servir de l'iPad Pro aujourd'hui pour faire, je ne sais pas, de l'étalonnage HDR? Qu'est-ce que tu en penses, Tanguy, là-dessus?
Franchement, le rendu, il est excellent, à part un peu de blooming, mais franchement, on est obligé d'en avoir sur du mini LED, mais le blooming, il est très, très restreint. Et on a quand même, on rappelle qu'on a plus de 2000 zones, c'est ça? 2000 zones sur
2500,
une dalle de... 2500 zones sur une dalle de 12,9 pouces, donc c'est
énorme.
Oui,
ça fait quand même des toutes petites zones. Là, oui.
Et il y a 4 mini LED par zone, donc on a plus de 10 000 mini LED. Donc on a un blooming très réduit. Après, de l'étalonnage, oui, mais faire de l'étalonnage sur un écran de 13 pouces, pour faire du contrôle peut-être sur un plateau de tournage, ça pourrait marcher. Sachant qu'on a un pic qui est supérieur à 1000 nits, donc on est au niveau des 1000 candélas par mètre carré, on est au niveau des moniteurs pro Sony qui sont calibrés à 1000. Donc ça peut vraiment servir à ça. Est-ce que les pros vont s'en servir? Franchement, j'en ai aucune idée. Après, oui, ça pourrait clairement servir à ça, surtout qu'ils sont parfaitement calibrés, c'est des écrans Apple. Après, ça, c'est plutôt une démonstration technologique, et je pense que, comme toujours, Apple se fait la main. Ils sont obligés de sortir des produits avec des technos en avance pour se faire la main au niveau de la production, pour ensuite l'ouvrir à d'autres catégories. On pense notamment au MacBook Pro 14.
Donc toi, t'imagines carrément que, entre guillemets, l'iPad Air Pro ait pu être un test, un produit de contrôle pour savoir si c'est viable avant de se lancer dans la production d'un MacBook Pro?
Ouais, clairement. Ouais. C'est un peu comme l'iPhone X, c'était le premier à avoir de l'OLED, c'était le seul modèle. Ils ont un peu... ils testent la production, puis on sait qu'Apple a des grosses demandes en termes de volume, et qu'ils ne peuvent pas de toute façon lancer tous leurs produits sur une techno d'un coup, puisqu'ils satureraient la production instantanément, quoi, d'une technologie. Quoi.
Mais justement, donc
là,
tu
avec
l'iPad
Pro 13, on est tranquille. Ça, les volumes de vente, je pense qu'ils ne sont pas incroyables non plus.
Après, avec un MacBook Pro qui, en plus, encore une fois, il y a la question du prix. Je ne sais même pas à combien pourra être vendu un MacBook Pro avec un écran mini LED, mais je suppose que ce ne sera pas gratuit. Honnêtement, on ne s'attend pas non plus à ce qu'ils en vendent des volumes colossaux. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Après, ouais, le MacBook Pro, si c'est sur le 16, il est déjà très cher. Je crois qu'il est à 2 500 €. Enfin, c'est aussi l'avantage d'Apple, c'est que les prix sont déjà tellement élevés que, en fait, avec le temps, les prix ne diminuent
pas.
Oui,
mais ils vont quand, ils vont quand même pas se priver de les monter encore plus à un moment où ils ajoutent une nouvelle technologie dessus. Tu vois.
Ouais, mais ils ne les montent pas au prorata du prix du coût de la technologie. C'est l'avantage aussi.
Ah, bah ça, c'est sûr.
Donc, on paye un peu moins cher. L'iPad 13 pouces, il est vendu combien, Kevin? Tu te souviens?
L'iPad Pro, le 12.9, il a pris 100 balles par rapport à l'édition.
Voilà, il a pris 100 balles. Alors, c'est toujours 100 balles de prix, mais c'est pas non plus. Il n'a pas de
prix.
Donc,
pour redonner un truc plus absolu, c'est combien? C'est 1200 et quelques, un peu moins de 1300, je crois. Prix d'entrée, bien sûr.
Ouais, c'est cher.
Voilà, et évidemment, après, si tu rajoutes du stockage dedans, le stockage il est vendu à prix ultra premium, c'est 1 euro le giga, un truc comme ça.
La version qu'on a reçue en test, nous, c'est la 1 Tera avec 16 gigas de RAM et elle est à 2 200 €.
Sans le clavier à 400 €.
Sans le clavier à 400
Ça commence à faire beaucoup tout de même.
On est sur le prix d'un MacBook Pro 16 pouces. Enfin, c'est incroyable.
À config égal, ouais, c'est le prix d'un. C'est le même prix. Un MacBook Pro.
C'est toujours le problème. Mais bon, il faut bien avancer sur les nouvelles technos. Le micro LED et le mini LED est une bonne techno en attendant le micro LED. En tout cas, avec beaucoup de zones comme on l'a vu là, c'est vraiment excellent. C'est difficile de faire mieux. Je pense que le LCD est poussé dans ses derniers retranchements.
Oui, là, à ce stade, pour faire mieux que ça, il faudra passer vraiment à une autre technologie.
Un pixel derrière chaque pixel de LCD.
Un écran micro LED sur un iPad. Allez, c'est parti les ingénieurs. On nous développe ça. Vite fait, bien fait.
Qui prend les paris. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on pense que, je pense qu'ils ne passeront pas à l'OLED du coup.
Oui, il y a des chances qu'ils ne passent pas à l'OLED sur un iPad. Ouais,
Quelque part, s'ils avaient dû passer à l'OLED, ils l'auraient déjà fait bien longtemps, je pense.
Et je l'explique par un problème de production. Parce que les dalles OLED de 12 pouces de 13 pouces sont exclusivement faits par Samsung et je pense qu'ils n'ont pas du tout la capacité de production pour soutenir le rythme d'Apple.
Ok.
Clairement pas du tout.
Très bien. Et du coup, il est déjà venu le temps de la dernière question, la question bilan. Du coup, ce rapprochement entre guillemets iPad, Mac, où est-ce qu'on en est? La fameuse convergence iOS-macOS, pour vous, est-ce qu'elle se matérialise vraiment ou est-ce que c'est toujours un fantasme? Est-ce que vous voyez concrètement des situations aujourd'hui où un acheteur pourrait hésiter entre un Mac et un iPad de façon parfaitement légitime?
Non.
Ok, ouais. Merci Tanguy. Eh bien, allez, à la prochaine.
moi, personnellement, avec ce qu'a soulevé Kevin en termes de gestion des fichiers multi-utilisateurs et surtout, pour moi, c'est le rapport qualité-prix qui reste pas du tout en faveur de l'iPad. Pour moi, l'iPad, ça reste quelque chose pour ceux qui ont besoin d'un stylet et du tactile. Si on n'a pas besoin du stylet et du tactile, franchement, je pense qu'on peut se passer de l'iPad.
Kevin, tu es entièrement d'accord, je suppose?
Non, je suis un peu plus nuancé, en vrai. Je dirais que ça dépend des usages, vraiment. La dernière fois, je disais en live avec Lame que moi, dans mon cas, je me voyais complètement passer à l'iPad Pro avec tous les accessoires qui vont, hein, bien sûr, parce que j'ai juste besoin d'Internet et tout ce qu'on fait, en fait, ça passe via le navigateur, tu vois.
Et puis parce que t'as pas besoin de trop de stockage aussi.
Et puis parce que j'ai pas besoin, de trop de stockage, ou au pire, je peux venir brancher un disque dur externe, ou j'achète.
C'est vrai qu'on peut faire ça sur les iPads maintenant, j'avais oublié.
Donc, moi, je me vois passer facilement sur un iPad. La retouche photo, je peux la faire directement dessus via Lightroom avec un stylet. J'ai essayé cette semaine, du coup, et c'est assez pratique. Ça marche très, très bien avec une puce à main, bien sûr. J'ai pas eu de problème de latence ou de freeze. D'ailleurs, ça marche mieux que sur mon propre MacBook Pro, donc c'est pour te dire. Donc moi, je me vois facilement switcher. Après, oui, je suis d'accord avec Tanguy. Si tu as vraiment besoin de gérer tes fichiers constamment, tu vas vite tiquer et je pense que tu vas vite le renvoyer pour t'acheter un MacBook Pro M1.
Il y a quand même un moment où un beau vieil ordinateur à l'ancienne, ça reste ce qui se fait de mieux.
Ah, c'est sûr. C'est-à-dire, il y a des tâches où, enfin, je vais prendre un truc basique, télécharger un fichier torrent, mais légal, hein, une distribution limitée.
Bien sûr, toujours.
Tu ne peux pas le faire sur un iPad. C'est tout, point final.
Ah, donc, mais tu peux faire que ça, DDL, c'est mort, en fait. Tu peux faire du DDL depuis 2 ans maintenant. Tu peux,
bah oui.
Tu as un gestionnaire de téléchargement, ce qui n'existait pas.
Oui, tu peux télécharger depuis ton navigateur, mais
jusqu'à
tu peux
2019.
Pas télécharger un torrent.
Non, mais ils ont mis du temps à faire venir ce genre de technologie.
Oui, pour moi, ça reste des trucs ultra bloquants qui font que mettre 1 500 € dans un iPad ou 1 500 € dans un MacBook, voilà, ça ne se négocie pas, en fait.
Toi, tu n'hésites pas une seule seconde.
Exactement. Après, Apple va peut-être proposer macOS sur iPad. Maintenant que c'est la plateforme est commune et qu'ils utilisent exactement le même matériel, il n'y a plus de... En tout cas, ils n'ont plus d'arguments contre.
You wish.
On verra.
Bah, qui sait, peut-être que ce sera annoncé dès le 7 juin pour la conférence de la WWDC.
Hein. Non, je ne pense pas.
Mais bon, imaginons. De toute façon, cette conférence, voilà, on vous rappelle que vous pourrez la suivre en live avec nous. Hein, ce sera sur Twitch avec notre bon Lame. Et avec toi aussi, Kevin, j'ai cru comprendre.
Ah bah, moi, je suis un peu le référent Apple à la mobilité.
Mais toi, t'es partout, t'es un peu notre mascotte, j'ai envie de dire.
Ouais, bientôt, on va m'acheter un petit costume, ça va être sympa.
Bon, enfin, en tout cas, merci à tous pour vos éclairages. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous rappelle bien évidemment que le test complet de l'iPad Pro est disponible. Il est en ligne sur le site à l'heure qu'il est. Celui de l'iMac, pas tout à fait à l'heure de la publication de cette émission, mais ça arrivera très prochainement, vraiment dans les jours qui viennent. Donc, on l'a dit aussi, cette conférence WWDC du 7 juin à suivre en direct avec nous sur Twitch. Et puis, pour le podcast, eh bien, on va se retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec Mathieu à la présentation, avec toujours l'incontournable Benoît à la technique et à la réalisation. Là, je ne pouvais évidemment pas rendre l'antenne sans mon petit shout-out. C'est toi le MVP, Ben, comme toujours. Merci aussi à vous trois. Mes chers chroniqueurs, pour votre
merci
participation.
Merci à toi, mon Flo. Puis on espère que tu mets tes oreilles sur l'iMac, hein, qui est Dolby Atmos.
Ah, très vite. J'ai hâte d'entendre ça.
Et tes yeux sur l'iPad Pro.
Et puis, merci bien évidemment à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, comme le veut la formule consacrée. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous entendre que nous, on en a eu à enregistrer ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine, donc d'ici vous là, portez-vous bien. Allez, ciao.
Merci, ciao, bye.
Salut.
Bye.
Salut.